jusqu'à 14h, Histoire et patrimoine de Normandie, avec François Duval sur France Bleu.
Pour parler chansons traditionnelles normandes, nous sommes aujourd'hui avec un Québécois. Ça peut surprendre, mais vous allez vite comprendre qu'il existe un lien très fort entre les deux. Robert Boutillier est installé à Caen depuis 2 ans. Il est conteur, chanteur, mais aussi et surtout spécialiste de la chanson traditionnelle francophone. Il nous aide tout d'abord à définir ce qu'est une chanson traditionnelle. Est-ce que chanson traditionnelle veut dire chanson historique ?
Non, c'est pas historique. C'est traditionnel parce que ça a transcendé le temps, ça a traversé le temps. Et ça a traversé le temps par un ensemble de mécanismes qui sont ce qu'on appelle la tradition orale, qui est construite sur la transmission des répertoires et des éléments de répertoire d'une génération à l'autre ou d'une personne à l'autre. En fait, c'est le mode de circulation, le mode d'appropriation et le mode d'expression qui en fait une chanson traditionnelle. Certaines sont historiques, un tout petit nombre en fait, donc se réfèrent à des événements qu'on a pu identifier, on sait à quoi ça fait référence, mais la plupart sont anonymes, on ne sait pas à quoi elles font référence, si elles font référence à quelque chose, parce que c'est pas obligatoire, parce que l'univers thématique de la chanson est extrêmement large, ça va des complaintes dramatiques, symboliques, chansons religieuses, chansons anecdotiques, chansons à danser, chansons de soldats, d'amour déçu, bref, il y a la palette du vivant qui fait partie, qui se retrouve incluse dans le répertoire de tradition.
Dans ce début de semaine avec Yvon Davy, on parlait justement des thèmes empruntés par la chanson traditionnelle, etc. Est-ce qu'au Québec, on retrouve ces mêmes thèmes?
Ben, effectivement, on retrouve les mêmes choses au Québec. C'est ce qui fait l'intérêt de ces travaux, d'une forme de recherche que je peux faire, c'est de voir quelles sont les voies de circulation que les chansons ont empruntées, où est-ce qu'elles se sont retrouvées. Tout ce qui s'est retrouvé de l'autre côté de l'Atlantique, ben, c'est venu de ce côté-ci, pour partie en tout cas. Pas tout ce qu'on y retrouve aujourd'hui, mais il y a beaucoup qui a traversé avec la population, avec le peuplement au 17e, début du 18e siècle. Et ces chansons-là, qui venaient dans la tête des gens, ben, justement, ont continué leur processus de circulation par transmission orale. Et on retrouve donc, de façon constante, des variantes, des versions de mêmes chansons au Québec, qui sont connues ici en Normandie, en Poitou, en Bretagne, en Berry, dans les Charentes, et que sais-je encore.
Et des chansons qui ont aussi évolué dans le sens où ils vont nous parler justement de l'évolution des textes, que les populations ont fait évoluer le texte, l'ont adapté à leur quotidien, à leur société. Est-ce que là aussi, les chansons qui ont traversé l'Atlantique se sont adaptées à une société québécoise?
Mais pas tant à une société qu'à des réalités. Certaines chansons, par exemple, qui étaient... Il y avait un usage fonctionnel, soutenir le geste du travail, par exemple. Les chants de moisson, chants d'aviron. Dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes, n'ont pas nécessairement trouvé les mêmes usages. On les a donc adaptés et ils ont servi à d'autres choses. Un paquet, par exemple, de chansons qui servaient à soutenir la danse, ici, les rondes à danser en Normandie ou en Haute-Bretagne. On trouve des versions là-bas, au Québec, des mêmes chansons, mais qui ne servent pas à danser parce qu'on n'a pas dansé en rond au Québec. Pour toutes sortes de raisons, qui seraient trop long à expliquer ici, là, mais donc les chansons sont restées, ont perdu leur fonction de support de la danse, mais en ont acquis d'autres. Ont acquis, par exemple, justement, chanson de canoteur, chanson à avironner, chanson à accompagner certains gestes rythmiques.
Mais je me rends compte que si vous n'étiez pas allé auprès des anciens, aller faire des collectes et des recherches, on a l'impression qu'on ne trouverait aucune trace de chanson traditionnelle ailleurs, c'est-à-dire dans des archives officielles.
Il y a des chansons qui ont été recueillies il y a longtemps et qui sont conservées dans des centres d'archives. Mais quelque part, ça reste une culture documentaire un peu morte si on ne va pas la chercher et si on ne la valorise pas. La matière existe, mais c'est surtout cette mise en dynamique, sa mise en mouvement qui n'existe pas. Si quelqu'un ne s'en occupe pas, ça va rester complètement sec. Quoi. L'intérêt, c'est qu'eux aussi font de la recherche, de la collecte, mais pas seulement pour archiver. Ils archivent, bien sûr, parce que c'est important de le garder, mais aussi pour mettre ça en valeur et essayer de créer de l'événement, créer des occasions pour que ces chansons-là continuent leur carrière. Et par ailleurs, si on a l'impression qu'il n'y a plus de chansons dans la mémoire des gens, c'est peut-être parce qu'on n'est pas allé voir. Parce que la Normandie a comme réputation, si on la compare à la Bretagne par exemple, là je parle de réputation, là, je parle pas de la réalité. Tout le monde pense qu'en Bretagne tout le monde chante et en Normandie tout le monde pense que personne chante. Mais c'est parce que il y a pas eu d'abord le mouvement de collecte est plus récent, il a moins été lié à des mouvements de revendication identitaire régionale ou nationale. Donc il est encore plus confidentiel qu'en Bretagne. Mais même à ça, en Bretagne, quand on, en dehors de ce qu'on voit médiatiquement et de ce qu'on voit dans les éditions discographiques et le mouvement musical des nouvelles traditions, le revival traditionnel, pas beaucoup de gens savent qu'il y a encore un substrat de mémoire chez les gens, dans les villages, dans les familles. Voilà. Donc, il faut aller chercher. Il faut pas condamner d'avance les choses en disant il n'y a plus rien trouvé. Avant d'être allé voir si effectivement il n'y aurait plus rien trouvé.
Robert Boutillier, qu'on retrouve d'ici 5 minutes, il nous parlera de ce lien qui l'unit à l'association Lalour, mais aussi de ce travail de classification, ces catalogues qui renferment toutes les références de la chanson traditionnelle. On en parle dans 5 minutes.
Et patrimoine de Normandie jusqu'à 14h avec François Duval sur France Bleu.
En Normandie, la chanson traditionnelle est défendue et mise à l'honneur par l'association Lalour, basée à Vire. Depuis des années, elle entreprend un travail de recherche pour retrouver toutes les chansons, les textes, les musiques, les histoires. Et ce travail, elle le fait aussi de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, où on retrouve beaucoup de chansons traditionnelles de chez nous. Alors, il y a quelques minutes, on était justement avec un Québécois, Robert Boutillier, spécialiste de la chanson traditionnelle. Alors, dites-nous, Robert, on en retrouve tant que ça de la chanson traditionnelle normande par chez vous ?
Dans ce que Lalour a édité, par exemple, une chanson sur deux qui est sur leur disque, j'en connais des versions québécoises. Donc, il y en a énormément comme ça. Tous les genres, hein, il y a vraiment un peu de tout. Aussi bien des complaintes que des formes de chansons à danser, des chansons plus rigolotes, satiriques, etc. Énormément de répertoire.
Et donc, quand vous participez à des événements organisés par Lalour, c'est pour chanter, c'est pour rencontrer...
Tout dépend de Lalour. Au départ, ma collaboration était davantage sur la production des éditions. Bon, il existe autour de ce répertoire de chansons traditionnelles des outils d'analyse, des outils de classement qui s'appellent des catalogues. Et disons que dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de me familiariser avec les catalogues. Et je suis devenu une des personnes qui maîtrise le mieux ces outils-là.
C'est quoi exactement les catalogues?
Un catalogue, c'est un répertoire avec les références des chansons. Prenons une chanson que tout le monde connaît, M'en revenant des noces ou à la Clairefontaine, par exemple, qui est une chanson type parmi des milliers. Alors, mais à la Clairefontaine, M'en revenant des noces, selon l'incipit, il y a des centaines de versions qu'on retrouve en dizaines de variantes différentes.
Wow.
Donc, si on la retrouve dans des bouquins, on la retrouve sur des disques, on la retrouve dans des collectes, les catalogues, c'est justement pour rassembler l'ensemble des références de chacune des versions, pour dire, vous cherchez des à la Clairefontaine, allez à tel endroit, dans tel bouquin, etc. Donc, mais encore faut-il, quand on est en face d'une version de la Clairefontaine, de reconnaître que c'est ça. Celle-là est évidente, mais bon. Et ensuite, savoir où elle se classe dans le catalogue. Comme donc, chercher quel code je vais lui donner, dans quel tiroir je vais la verser.
Et c'est un catalogue que tout le monde peut consulter?
C'est consultable, c'est édité, sauf que c'est assez abscons, et puis c'est assez aride. C'est que de la référence, quoi. C'est comme si on regardait un dictionnaire.
D'accord.
Donc, c'est pas quelque chose qu'on lit tous les jours, c'est pas un roman, là.
Et non, mais je me rends pas compte. Le catalogue, il est gros comment? Et combien de références à l'intérieur?
Là, c'est une bonne question. Il y a deux catalogues. Le premier, historiquement, le premier à avoir été construit, c'est le fichier du chercheur qui le fait, qui s'appelait Patrice Coirot, qui avait fait le recensement et qui avait créé des fiches documentaires sur à peu près toute la bibliographie depuis le début du 19e jusqu'au milieu du 20e, disons. Et le fichier Coirot, mais était totalement inédit, était après la mort de Coirot en 1959, ça a été versé à la Bibliothèque nationale de France et ne pouvait consulter ce fichier que les gens qui avaient pas de blanche pour aller dans le fonds Coirot à la BNF. Autant dire que c'était un catalogue qui existait, mais qui n'existait pas en même temps dans le public. Et un peu après, un chercheur québécois qui s'appelle Conrad Laforte a créé un catalogue à partir des collections des archives de folklore de l'Université Laval. Conrad a commencé à travailler ça en 1952-53. Et après avoir aligné des dizaines de milliers de fiches, a publié son catalogue, qui tient en 6 volumes, publié entre 1977 et 1987. 6 volumes avec à peu près 5500 chansons types différentes. Puis d'une chanson type peut avoir deux références, puis une autre peut en avoir 300. Alors, la Clairefontaine, par exemple, c'est du type peut avoir 300 références. Et encore, c'est pas exhaustif. Et le fichier Coirot, qui lui avait été élaboré entre 1920 et 1950, si on veut, est dorénavant accessible sous forme imprimée, sous forme éditée. Mais c'est pareil, il y a, je sais pas combien, 3000 chansons types, avec des centaines de références pour certaines, qui nous renvoient justement de la bibliographie, qui est pour partie 19e, pour partie 20e, mais aussi avec des sources anciennes. Quand une chanson est attestée, par exemple, au 14e, on n'a pas beaucoup les attestés, mais disons 16e, 17e siècle, les références anciennes sont là. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est la référence de base, c'est la référence première, mais tout ce que ça nous dit quand on a quelque chose qui a été publié dans un bouquin au 16e, c'est qu'au 16e siècle, cette chanson-là existait. C'est pas celle-là que tout le monde a appris par la suite.
Oui.
C'est simplement une mise en écrit, à un moment donné, d'une version de la chanson qui par ailleurs circulait.
Donc alors en Normandie, alors est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui les gens ont encore un intérêt pour la chanson traditionnelle?
Ben, y a des gens qui ont un intérêt. Il y en a peut-être plus qu'on pense, sauf que ces gens-là, on les entend jamais. Parce que c'est assez rare que les médias s'en préoccupent. C'est assez rare qu'on met le projecteur dessus. Quoi. Mm-hmm. Et les artistes qui chantent de la chanson traditionnelle, en général, ils sont pas dans les charts, les top 50 des postes de radio. Donc, on les entend à peu près jamais.
J'ai l'impression qu'au Québec, la chanson traditionnelle est plus populaire que par chez nous.
C'est une impression.
On pense à Fred Pellerin, par exemple, ou à des conteurs, des chanteurs.
Peut-être il y a effectivement un peu plus de tradeux. Conteurs, chanteurs, musiciens, qui sont passés dans l'univers de la variété médiatisée. Mais les Québécois moyens, en dehors de ces médiatisés-là, connaissent pas. Ils connaissent pas plus que ça. Ils ont, c'est pas parce qu'il y a des porteurs vedettes que tout le monde sait qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le substrat et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'univers confidentiel. C'est très difficile de faire des comparaisons. Et disons, le miroir médiatique est un miroir déformant un petit peu aussi.
Robert Boutillier qui a aidé à la Lour à recenser toutes les chansons traditionnelles normandes. Histoire et patrimoine de Normandie à retrouver bien sûr en podcast sur francebleu.fr. Et demain, on finit ce sujet sur la chanson traditionnelle normande. Nous serons avec Yvon Davy, le directeur de la Lour. France Bleu.